France Culture. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Il faut passer le flambeau, mais lorsque les survivants auront disparu, qui transmettra la mémoire ? Les survivants, ceux de la déportation, revenus vivants donc, mais pour qui rien ne fut plus jamais pareil. Rentrés des camps, vraiment. Ceux qui sont rentrés ne sont jamais réellement rentrés des camps. Lors des journées de la déportation en 1995, on commémorait alors le 50e anniversaire de la libération des camps, François-René Christiani avait assisté à des retrouvailles, des confidences, à des silences aussi, à ce fameux passage de flambeau ou de mémoire.
Retour à Neuengamme ou le passage de mémoire, une émission de François-René Christiani, réalisation Jacques Taroni.
Dans les camarades que je peux avoir dans le Jura, on n'est pas tellement prolixe de nos histoires de déportés. Par contre, les petits-enfants, ben, quand on se réunit souvent 1er janvier, tout ça, ou chez l'un ou chez l'autre, alors on raconte nos histoires, oui. Mais on les raconte des fois avec un peu de cynisme. Alors les petits-enfants, ils écoutent nos histoires, mais nous, à les raconter au petit-fils ou à la petite-fille, je sais pas, ça nous est difficile. Par contre, à quelqu'un d'autre, des jeunes qui demanderont, ça nous sera plus facile qu'à nos petits-enfants.
Il ne m'a jamais rien raconté sur ce qu'il a souffert. Ce que j'ai su, c'est que nous recevions beaucoup de ses amis, des anciens déportés, et quand ils étaient entre eux, ils parlaient. Et moi, si j'étais dans la pièce à côté à faire ma cuisine, j'ai entendu. Quelques fois aussi, il a été demandé, pour tout à fait au début de son retour, pour aller faire des conférences. J'ai assisté à ces conférences, et c'est là que j'ai appris beaucoup de choses. Mais de toute façon, j'en apprends encore maintenant. Quelquefois, je lui dis, mais je ne savais pas ça, tu n'avais jamais raconté ça. Et ils ont des souvenirs qui maintenant viennent très nets, qu'ils n'avaient pas à l'époque.
Lorsque nous étions jeunes, nous ne comprenions pas toujours tout. Et bien souvent, c'est notre mère qui nous réexpliquait les choses le soir dans la chambre en disant, mais tu sais... Si papa il est un petit peu comme ça, de mauvaise humeur, ou fâché, ou pas facile, c'est qu'il a aussi des raisons. Et petit à petit, ça a été un long travail. On a été mis au courant de tout ce qui s'est passé. Et je crois qu'on comprenait mieux au retour, parce que moi je suis né quand même en 48. Hein, donc tout petit, c'était pas toujours facile. Mais petit à petit, à force d'explication et de patience, on a fini par comprendre ce qui s'était passé. Et donc... On comprenait que notre père était quelquefois traumatisé.
Je vais tous les ans dans le collège où était mon petit-fils, qui est Erwan. C'est à Avrillé, à côté d'Angers. Et Madame François, le professeur, tous les ans, elle tient, c'est elle. Je n'ai plus besoin maintenant de faire des propositions, des avances, voulez-vous de moi. Non, ce sont les professeurs qui me disent, vous revenez, monsieur, l'année prochaine. Ça n'est pas une interrogation, c'est, vous revenez.
Quand les survivants auront disparu. Et bien évidemment, vu l'âge qu'ont certains, ça sera rapide, je pense, bien sûr. C'est à nous, tout à fait, de transmettre en fait, la mémoire. C'est, pour moi, je le ferai parce que je dois le faire, pour mon grand-père, que je n'ai jamais connu. Mais pourtant, j'ai bien souvent regardé sa photo, pour mon père et pour mon oncle. Je crois que ces gens-là se sont battus pour défendre le pays, la France, et je ne j'ai pas le droit, si vous voulez, d'oublier ça. Moi, fils et petit-fils de déportés.
Je précise tout de même que la famille Le Tertre a eu trois Marcel Le Tertre dans les camps de concentration. Mon père, un de mes cousins et moi-même.
Vous parliez de trois personnes. Vous êtes là, oui. Les deux autres.
Mon père est disparu à Theresienstadt aux côtés de Robert Desnos. Mon cousin a été assassiné au rivière de Mauthausen le 28 avril, le jour même où moi je sortais libre de Mauthausen.
Le 4 mai 1945, lorsque le camp de concentration de Neuengamme, le grand camp d'Allemagne du Nord, est libéré par l'armée britannique, il est vide de tout déporté. En raison de l'avance soviétique, Himmler avait, dès la fin mars, donné l'ordre à la SS de faire disparaître toute trace de la déportation, déclenchant ainsi le chaos final des évacuations et des marches de la mort dans une terreur surréaliste, et alors que l'Allemagne nazie était vaincue. 50 ans après, du 3 au 5 mai 1995, plus d'un demi-millier de Français ont fait, en train et en autocar, le voyage de Hambourg avec l'amicale des anciens déportés de Neuengamme. Les survivants ne sont pas revenus seuls sur les lieux de leur souffrance. En grand nombre, plusieurs familles étaient venues à 20 ou à 10. Épouses, frères et sœurs, enfants, petits-enfants, familles des morts et disparus les accompagnaient, ainsi que plusieurs lycéens, lauréats du concours national de la résistance et de la déportation, et leurs professeurs. Chez tous, une obsession, le danger de l'oubli. Au-delà de retrouvailles fraternelles et pathétiques, il s'agissait bien de braver l'amnésie, d'expliquer les longs, très longs silences de l'après-libération, de régénérer le passé, d'en tirer les leçons pour le présent. Les bonnes réponses viennent souvent de ceux qui ont vécu les questions dans leur chair. Politiques, comme on disait, ou résistants, les ultimes témoins, aux bras tatoués, voient le temps qui passe. Ils essaient de passer le flambeau à la première, à la deuxième, à la troisième génération. Pour que la mémoire se fasse exemplaire, et que Neuengamme devienne, en Allemagne du Nord, le grand musée de la déportation, lieu de mémoire, de recherche, de vigilance. Ils parlent entre eux, dialoguent avec femmes, enfants, petits-enfants, chacun ses mots, mais les leurs, qui empruntent à la chronique ou à la poésie, traverseront les siècles.
D'abord, l'arrestation, pour moi, ça a été très dur. J'étais fiancée, je l'ai attendu pendant un an et demi sans savoir s'il était mort ou vivant. Et puis enfin, on a eu le bonheur qui rentre. Il était dans un état pitoyable, bien sûr, il pesait 30 kilos. Et puis, il avait tout du vieillard, je sais pas, il avait 20 ans. Et on a attendu un an pour se marier, parce qu'on avait peur de mettre des enfants au monde qui n'auraient pas été normaux. On a attendu qu'ils reprennent la santé. Puis aussi, on a attendu mon beau-père qui était porté disparu et dont on n'a jamais su ce qu'il est devenu. Il a été libéré par les Russes. Et on n'a jamais rien su. Alors ma belle-mère attendait toujours le retour pour nous marier. Enfin, nous nous sommes mariés, heureusement, parce qu'on ne sait toujours pas ce qu'il est devenu. On ne serait pas mariés alors qu'il est. Alors quand ils sont rentrés les déportés, vraiment, ils étaient rendus à l'état de bête. La première fois que je l'ai vu boire un bol de lait, on aurait dit un chien qui lapait son écuelle. Et puis, ça a été très long. Il ne donnait pas d'explication. On ne savait rien pourquoi il était si sombre, pourquoi il était de si mauvaise humeur. Et je l'ai accompagné toujours à ces réunions d'anciens déportés. Et c'est ça qui m'a aidé à vivre, parce que à ces réunions, pendant que nos hommes étaient en réunion, nous, les femmes, on parlait entre nous. Et on s'encourageait les unes les autres, parce que on savait qu'on n'était pas les seuls à subir des caractères qui n'étaient pas normaux. Alors elle disait, oui, tu sais, moi, le mien, il est comme ça, et le mien, alors heureusement, ils ne sont allés pas tout seuls. On en arrivait à penser qu'on n'était pas aimés de nos maris, tellement ils étaient bizarres. Il a fallu du temps et du temps pour comprendre pourquoi ils étaient comme ça. Et nous qui avons perdu un fils et un petit-fils de 20 ans, maintenant, je comprends qu'à certains moments de notre vie, quand on a des peines affreuses ou qu'on passe dans des mauvais moments, on ne peut plus poser nos yeux sur le monde avec la même intensité. Ça n'est plus pareil. Rien n'est plus pareil. Alors je comprends que ces hommes-là, pour eux, rien ne sera jamais pareil. Et je dis toujours à mes enfants, il n'y en a pas beaucoup de rentrés, mais ceux qui sont rentrés, ils ne sont jamais sortis des camps. Et je crois que plus ils vieillissent, plus ils sont là-bas.
On vient d'entendre Marie-Madeleine Le Tertre, qui dans le train du retour à Paris témoignait sous le regard attentif de son mari, Marcel Le Tertre, ancien déporté de Neuengamme. Maintenant, Philippe Rousseau, qui accompagnait au pèlerinage son père Jean, lui aussi déporté, et rentré de Neuengamme.
J'ai su très tôt qu'il avait été déporté, mais comme tous les déportés, ils ne témoignent jamais vis-à-vis de leurs enfants. Moi, les principaux renseignements que j'ai sur toute la déportation, ce sont les amis de déportation de mon père qui me l'ont dit. Et ces mêmes amis ne parlent pas à leurs enfants. On a l'impression que, naturellement, ils veulent sauter une génération. Et je le vois avec ma fille qui a 16 ans maintenant. Et mon père dit des choses à ma fille qu'il ne m'a jamais dit. Et inversement, c'est pareil pour les amis de déportation de mon père. Je crois que pour eux, c'est très dur de parler. Et s'ils parlent, c'est pour ceux qui sont restés là. Ils ont eu la chance de survivre à ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que s'ils sont là, il y a des gens qui ont donné à manger à un moment donné. Il y a des gens qui ont protégé. Et ceux-là ne sont pas revenus. Eux, ils sont revenus. Et c'est ces gens-là qui témoignent. Et souvent, je discute avec mon père et avec les amis autour. Il n'y a pas d'explication. Parce que quelque part aussi, c'est inexplicable quoi, ce qu'ils ont vécu. Même moi, le peu que je savais, mes professeurs me l'ont un petit peu enseigné. Et moi, je suis près de 25 ans après avoir été primé au concours de la résistance et de la déportation. Et je m'aperçois, quand je vois les manuels d'histoire de ma fille, que pas grand-chose a changé. Et qu'on va encore faire ça en 3-4 heures. Or, c'est notre passé, mais c'est notre présent. Et comme le disent beaucoup ici, c'est le futur. Si on fait pas attention, ça y est, on revit.
En se rendant à la Metallwerke, la fabrique de fusils qu'évoquait à l'instant Philippe Rousseau, deux revenants de Neuengamme, passant devant le wagon souvenir qui transportait les déportés jusqu'au camp, évoquent, comme si c'était hier, leur calvaire de 44-45. Gino Pianalto, Roger Joly.
L'usine Volkswagen avait acheté les déportés pour travailler, pour faire des baraquements pour les travailleurs qui travaillaient à l'usine. Oui. Et la SS avait vendu des hommes. C'est la SS qui avait vendu des hommes, c'est tout. Et ils nous gardaient, c'est eux qui nous gardaient.
Et vous disiez à l'instant que vous étiez dans ce commando de travail.
Oui. Hein,
quand vous avez commencé à être évacué,
on a été évacué vers Voblin.
Oui.
Vers Voblin, là on est resté 3 semaines. Et c'est là qu'il y a eu tant de morts.
Combien ?
Oh, il y a eu 3000 morts en 15 jours.
En 3 semaines. Sur combien ?
Sur 5000.
Et
c'était il y avait un bloc, le bloc de toilette qu'on appelait. Et là, il était plein. C'était plein. Il ne pouvait plus les enterrer. Il en a déjà enterré beaucoup. On ne sait pas. Moi-même, j'en ai enterré. Et on va y revenir. Je vais essayer de retrouver les endroits. Mais comme ça a été un camp qui a été rasé, c'est fini, quoi. Mais on connaît quand même les endroits. C'est terrible. Ça a démoli un homme.
Oui.
Vous savez qu'il y a 50 ans que j'étais libéré. Et il n'a pas passé un jour et une nuit sans que j'y pense.
Pas une nuit.
Pas une nuit.
Impossible.
Impossible. Ça revient toujours.
Oui.
On ne peut pas l'oublier.
Et malgré le temps qui passe, c'est ineffaçable.
Ineffaçable. Et on est heureux quand on se retrouve entre nous. Oui. Quand on se retrouve entre déportés. Parce que quand on le raconte à des gens qui n'ont pas vécu, on se demande s'ils croient, Tandis que nous, on se raconte, on est heureux parce qu'on se retrouve.
Il y a une fraternité, on le voit. Hein.
Oh, c'est plus qu'une fraternité. C'est plus qu'une fraternité.
C'est quoi ? C'est le sentiment d'être des...
Nous étions tous des frères. Il n'y avait pas de préfet, il n'y avait pas de colonel, il n'y avait pas de capitaine. On se tutoyait tous. Il n'y avait pas de parti. On était tous pareils. Nous étions des condamnés à mort. On devait disparaître.
Donc vous n'êtes pas un rescapé, vous êtes un revenant.
Exactement, nous sommes des revenants. Parce que certains commandos ont été éliminés complètement. Et nous, ils n'ont pas eu le temps, ils n'ont pas pu. Enfin, ils devaient nous évacuer sur la baie de Lübeck. Et par chance, la ligne de chemin de fer a été bombardée. Ils nous ont ramenés deux jours avant dans le camp. Et nous avons été libérés le 2 mai.
Mais c'est terrible ce que vous dites quand même. Pas un jour, pas une nuit.
C'est impossible. Mais c'est pas qu'un jour, pas qu'une fois. Oui. C'est continuellement.
Et comment est-ce que quand on revient, on se...
On ne peut pas le savoir, j'avais 17 ans. On ne peut pas, ça ne s'explique pas, on ne peut pas savoir. C'est quelque chose qui revient. On a été arrêté, on a été matraqué, on a été battu, on a été... Et c'est une chose qui revient là, puis on revoit toujours ses morts, on voit toujours ce qu'on a subi. Non, je suis revenu, vous savez que je n'osais pas regarder mes parents en face, je ne levais pas les yeux, je ne regardais pas mes parents comme je vous regarde. Je baissais les yeux. Parce que si vous regardiez un SS en face,
oui.
On vous donne un coup de schlag, un coup de cravache sur la figure. Mm-hmm. Parce qu'il disait que vous lui teniez tête. On était à réduit, on n'était plus des hommes, on avait... Ce qui nous a sauvés, nous, les déportés, c'est que nous avons vécu de 8 jours à 8 jours. Aussitôt qu'il y a eu débarquement, on a dit on va être libérés. Le plus dur, ça a été quand ça a été très long à Bastogne, là, ça, le moral était tombé.
Vous aviez des nouvelles ?
Oui, parce que des civils qui travaillaient, et qui menaient le chantier. Et alors on entendait des fois ce qu'ils racontaient, on arrivait à suivre quand même.
Et il a fallu 10 mois.
Oui. J'ai été arrêté le 21 avril, ramené ici à Nottingham et libéré le 2 mai. Vous voyez, c'est très long.
De l'année suivante, oui.
C'est très, 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 très long. Et je crois qu'aucune bête sur Terre n'aurait pu vivre. Je crois que l'homme est autre chose qu'une bête. Parce que je dis, toutes les bêtes seraient mortes.
Et ceux qui étaient en face.
Vous savez que quand nous sommes rentrés, vous avez dû l'entendre sûrement dans ces wagons, ce wagon que vous avez vu, nous étions 100 et 120, 4 jours et 4 nuits sans boire. Monsieur, sur la tête de mes enfants, il y a des hommes qui ont bu de l'urine. Et j'ai uriné dans des boîtes et on a fait boire ça à des camarades. C'est terrible.
Oui. Il faut dire également une chose.
C'est terrible.
C'est que la soif, ce que tu viens de dire.
Les hommes devenaient fous.
La soif, exactement, rendait fou. Et quand il y avait un furieux qui ne se contenait plus dans la masse, il fallait l'assommer.
Nous l'assommions.
Il fallait l'assommer.
Oui.
Nous avions des...
Sinon, il deux mutilés de la mort de...
Deux mutilés de guerre que je faisais revenir à tout moment. Et il avait jambes en bois, je les revois toujours. Ils tombaient dans les pommes à tout moment, on les faisait revenir. Et c'est là que on leur a donné... Les anciens me disaient, toi qui es jeune, tu vas uriner dans cette boîte et on va leur donner à boire. Ils tombaient dans les pommes et on les faisait revenir. Je me souviens, j'étais torse nu. Mais rendez-vous compte, 100 et 120 dans les wagons. Mmh. On était partis à 100, mais comme il y a des wagons qui étaient évadés, ils ont sorti les restes, ceux qui n'étaient pas sortis, ils les ont mis avec nous. On ne peut pas se faire une idée de ce que c'est.
Le soir du deuxième jour, dans mon wagon, on était 100. Et il y avait un brave cultivateur corrézien, pas très loin de chez moi. Je suis corrézien d'origine. Et qui avait une 60aine d'années. Et le soir du deuxième jour, il a été pris de délire. Et alors il disait, en voulant écarter, jouer des coudes pour fendre une foule compacte, épaisse, qu'on ne pouvait pas manœuvrer. Et il disait, il avait les yeux brillants, il disait, tu vois, regarde, là-bas, mes fleurs, elles ont besoin d'eau, mes fleurs. Laisse-moi aller les arroser, mes fleurs. Regarde, tu vois bien qu'elles crèvent, il faut que je leur donne de l'eau. Que voulez-vous dire à un homme comme ça ? Alors j'ai essayé de le calmer. Et je lui ai dit, d'accord, mais regarde bien. Tu vois le ciel ? Il est plein de nuages noirs, le ciel. C'est l'orage. Ça va crever, et la pluie va tomber, et tes fleurs vont recevoir de l'eau, et elles vont vivre, tes fleurs. Alors tu restes tranquille, il n'y en a pas pour longtemps, l'eau va venir. Il s'est calmé.
Il faut trouver
les mots. C'est terrible. Oui, il faut trouver les mots, mais c'est très dur. C'est dur, vous savez. Alors je reviens à ces mutilés, ces deux mutilés de guerre qui devaient avoir dans les, je sais pas moi, 50-55 ans. Ouais. Quand on les a déchargés, là, ils les ont tués. Et ils les ont tués. Alors quand vous voyez, je me souviens, je suis allé, joli. Quand ils les ont déchargés, j'ai dit, mais ils sont mutilés. Ces Allemands qui criaient partout, c'était des vraies bêtes, c'était des sauvages. Ils y allaient comme de, ils tapaient n'importe où. Mais j'ai dit, mais ils sont malades, ils peuvent pas marcher. Ils m'ont sorti le revolver. Je sais que mes camarades, ils ont dit, viens, Gino, viens. Parce qu'ils vont te tirer dessus. Puis je l'ai laissé là. Et ils ont été finis.
Je me demande comment un homme peut réussir à ces trois jours comme ça, debout, sans boire. Parce que déjà, sans manger, on a du mal à imaginer, mais quand on apprend qu'on ne mange pas, parce qu'on a trop soif.
On pouvait pas,
je sais pas, un homme, faire ça un homme, je sais pas si on peut appeler ça des hommes. Quoi. Parce que enfin, moi, c'est mon grand-père qui a été déporté à l'âge de 18 ans, donc à mon âge. Donc c'est pour ça que, lorsque j'étais plus jeune, des fois, quand il m'en parlait, je voyais, il me disait, j'avais 18 ans. Bon, quand on est jeune, 18 ans, on voit un adulte. Quoi. Et quand on arrive à l'âge de 18 ans, on a du mal à imaginer quand même. Partir comme ça, on a du mal à imaginer. Quoi.
Moi aussi, je suis très surpris. J'ai lu plusieurs récits sur les trains de la mort, comme ça. Et c'est vrai que bon, pour nous, gentils occidentales des années 90, on n'a pas une journée sans manger trois fois, boire, et puis là. Ça fait pas 4 jours sans boire, c'est réussir à servir l'homme à ce point. C'est, on dit que l'homme est un loup pour l'homme, mais dans ces cas-là, c'est flagrant, quoi. C'est fait mal. Quoi. J'ai eu envie ce matin de bien faire. Je pense que je vais peut-être professeur plus tard, et professeur d'histoire. Et je pense que c'est une étape pour à peu près chaque jeune de passer par un camp de concentration et de voir sur les fêtes. Parce que j'ai travaillé sur les bouquins pour le concours l'année dernière. Et autant bouquins, vidéos, ça change. Mais alors, quand on a des témoignages sur place, et c'était ce matin, c'était vraiment très fort. Quoi. Je trouvais pas les mots pour expliquer.
Au mur du centre de recueillement du camp de Neuengamme, la liste des morts. La famille Vandel la parcourt. Simon le père, ancien déporté. François, son fils. Sophie, la fille de François.
J'ai deux cousins qui sont morts, qui sont disparus ici. Et puis je ne peux pas arriver à trouver leur date. Alors on essaie de rechercher les dates exactes de leur disparition. Mais c'est très difficile parce qu'il y a des gens, vous savez, ils ne pourraient pas y tenir. Pas. Les SS, habituellement, ils tenaient des registres consciencieusement et tout. Mais eux, pourquoi ils sont disparus? Certainement dans la tourmente. Pourtant, je sais, parce que moi, je les ai conduits à l'infirmerie début décembre 1944. Je sais qu'ils sont morts au camp, ils sont passés par le crématoire, mais on ne trouve aucun nom.
L'important, moi, je crois que c'est de continuer justement à ce que les enfants soient porteurs de ce message pour lequel tant de gens ont souffert. Et que par-delà, justement, le décès des anciens déportés, hein, de moins en moins, on continue à se souvenir de ce que peut être, de ce que peut donner un régime totalitaire.
Bah oui, je pense quand même que c'est très intéressant de voir tout ce qui s'est passé, parce que quand on le voit à l'école, c'est quand même superficiel et on va pas assez en profondeur. Les camps de concentration, tout ça, on n'en parle pas assez. Et c'est quand même très intéressant de voir tout ce que nos grands-pères, grand-mères, tout ça ont vécu. Ça a dû être terrible pour eux et qu'on n'a pas envie de revivre ça. Et puis on les voit même entre eux, quand ils se rappellent des choses, ça les touche, quoi.
Quand nous sommes rentrés, nous avions 20 ans. C'était tellement horrible ce qu'on avait raconté. Personne ne pouvait le croire. À 18 ans, mon père était dans les tranchées de Verdun et c'est la première personne qui ne croyait pas ce que nous avions vécu, nous. Alors on s'est fermé comme des carpes. Mes enfants, directement, je n'ai rien pu expliquer. On commence à expliquer aux petits-enfants parce que les petits-enfants, eux, ils veulent savoir.
À nous, tu nous en as jamais parlé. Par contre, à ma femme, c'est à ma femme qu'il a commencé à en parler. Mais à nous, il n'en a jamais parlé. Alors qu'on avait des questions, qu'on venait dans les réunions de déportés avec eux, que...
C'était tellement horrible, il n'y avait aucun mot qui puisse décrire et qui puisse faire vivre. Celui qui n'avait pas vécu, c'était inadmissible. Nous étions partis de Wattenstedt, 4000, 4500 environ, nous sommes arrivés à moins de 1000. Personne ne pouvait le croire, c'est pas possible. C'est là, dans ces wagons-là, où on voyait des Russes, des Polonais, on voyait des gens qui arrachaient les viscères des gens pour essayer de manger, des gens qui venaient de mourir, qui étaient encore chauds. C'est inadmissible, allez raconter ça, on vous traite de fou.
Quand on est rentré ceci pendant plus de, je veux dire, 20 ans, peut-être bien plus, eh bien, on n'en parlait pas. Moi, je ne voulais plus en entendre parler. Puis je ne suis pas seul, mes camarades sont à peu près identiques. Hein.
Est-ce que vous aviez
peur de parler ? Pas ça, parce que c'était... Bon, c'était marqué dans notre chair, c'est vrai. Et d'ailleurs, comme on le restera, je pense, toute notre vie, hélas.
Est-ce que vous aviez peur de ne pas être cru ? Ou est-ce que vous aviez peur qu'on ne vous écoute pas ?
Si, la question d'écouter, on écoute. Mais être cru, c'est autre chose. Écoutez, franchement, c'est tellement une vie qui est... Bon, est-ce qu'on peut appeler une vie, d'ailleurs ?
Oui.
C'était une survie permanente. Quand on fait nos rassemblements chaque année de notre commando de Wilhelmshaven, dans différents points de France, eh bien, on est, bien sûr, en présence de veuves, ou d'enfants, de familles, qui recherchent toujours un élément quelconque sur leurs parents. Eh bien... Moi, je suis pris aux tripes, excusez-moi l'expression, parce que je dis, moi, je suis là, je peux parler, et puis je les ai laissés là-bas. Être dit, mais ça ne peut pas être compris comme on voudrait que ce soit compris. Ceux qui comprennent aujourd'hui, si, ce sont les élèves, dans les écoles. Je vous assure que ces jeunes, aujourd'hui, sont très demandeurs, parce qu'une génération a passé. Et je crois que c'est très important, parce qu'aujourd'hui, eh bien, les élèves, vous savez, boivent vos paroles. Je vous l'assure, je le fais... Beaucoup, il y a le passage. Il y a quelque chose que je leur dis toujours, qu'ils luttent pour cette démocratie, qu'ils luttent pour cette liberté, qui sont des mots souvent galvaudés, et puis que l'on apprécie que à toute sa valeur lorsqu'on l'a perdue.
Eugène Hervy vient d'évoquer le passage de la mémoire et les nombreuses conférences qu'il donne, comme beaucoup d'anciens de Neuengamme, dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. Deux enseignantes, toutes deux filles de déportés de Neuengamme, évoquent aussi, comme un devoir, ce passage de la mémoire. Françoise Defren-Solbar et Françoise Hébrard-Rutinet.
Je pense qu'on peut perpétuer cette mémoire, mais en parlant souvent. Bien que certaines personnes parfois estiment qu'on en parle trop et qu'à la longue on en est lassé, mais la répétition est importante, c'est un acte pédagogique aussi et ça ne peut se faire que de cette manière-là. Je me souviens d'avoir toujours entendu parler de ça, avoir lu les livres qui se trouvaient à la maison. Je ne sais pas si les autres personnes donc, qui ont la quarantaine comme moi sont tout aussi conscientes de ce qui a pu se passer.
Est-ce que votre père vous en a parlé facilement ou est-ce que...
Quand j'étais plus jeune, oui, il en parlait assez facilement, il me semble. Maintenant, un petit peu moins, parce que c'est plus difficile pour lui. Il a plus de mal à s'exprimer sans ressentir trop d'émotions. Et donc, on lui a demandé d'écrire aussi le plus possible pour que tous ses souvenirs ne soient pas perdus. Comme je suis professeure, je vois mes collègues d'histoire qui essayent de faire tout un travail pour montrer à ces jeunes... ce qu'était le passé et comment on peut en tirer quelque chose pour notre présent. Je crois que pour ces jeunes aussi, il y a, de manière contradictoire, une envie d'entendre et peut-être un phénomène de ras-le-bol mais temporaire probablement. Et je crois que c'est sur un travail de longue haleine que les choses peuvent se faire.
Les associations de déportés, les amicales, organisent en leur sein des amicales d'enfants de déportés pour que justement on continue ce devoir de mémoire. Pour moi, c'est un devoir. Je dois dire qu'en plus, j'ai l'impression en tant que professeure d'avoir un autre regard parce que je suis la fille d'un déporté, la fille d'un, la nièce d'un oncle mort à Auschwitz, déporté politique, et puis la cousine du plus jeune fusillé de Châteaubriand. Pas de Châteaubriand, de Nantes. Et donc, je porte en moi ces trois messages d'hommes que je suis née tout de suite après la guerre. Et vraiment, je porte en moi, d'abord, je porte leur prénom et je porte en moi tout ce message et tout ce devoir de mémoire.
Moi, je suis la maman. J'ai 9 enfants, dont les 9 enfants ont tous été visités en camp de concentration dans leur jeunesse. Et maintenant, tour de rôle, on emmène les petits-enfants. Malheureusement, c'est... Ils n'ont pas pu venir et j'en ai qui j'emmènerai le 9 et 10 septembre. Je vais au Struthof avec des petits-enfants qui n'ont pas pu venir aujourd'hui. Alors je vais soit le Struthof, soit Neuengamme.
Jacques Saillard, jurassien d'adoption, a beaucoup souffert au commando au camp de travail satellite de Wattenstedt. Il parle un instant du charisme de l'abbé Carlotti, Carlo.
On a tous souffert. Moi, je vois au moment de la libération, on a été libéré à Malkov. Hein, je me souviens, à Malkov, j'étais fichu, je sentais la merde. Hein. Et puis, Carlo est venu me voir, il me dit « Jacques, tiens bon, parce que les Russes arrivent ». Je lui ai dit, Carlo, je suis fichu. Et au même moment, il y a eu un appel. J'ai voulu suivre Carlo, puis je suis tombé dans le couloir. Et alors, avant que je tombe dans le couloir, je voyais la neige qui tombait à gros flocons des flocons, comme la moitié de la main, contre un bois de pin. Il n'a jamais neigé à Malkov. Or, c'était. Hein. Et quand j'ai repris conscience, je me souviens, je tenais des draps blancs. Dans mes mains, je tenais ces draps blancs et puis je les regardais. C'est un aumônier de prisonniers de guerre, le père Aubrin de l'abbaye de Saint-Martin de Ligugé dans la Vienne, qui avait vu des camarades sur la route, il venait d'être libéré. Puis il dit, mais c'est pas possible, dans quel état vous êtes? Et puis les copains ont dit, allez voir dans le camp tous les moribonds qu'il y a. Il est venu, il a trouvé que je vivais encore. Alors ils m'ont ramené dans un pavillon SS qui était là, il y avait 3 lits par chambre. J'avais un gars que je ne connaissais pas, un Français, nommé Aymon, de Paris, et puis un Polonais. Le Parisien est mort, le Polonais est mort. Mais, je ne sais pas pourquoi s'étendre sur sa libération comme ça, mais on demande si on a mérité de revenir. Et bien souvent, moi, je ne m'étends pas... Parce que c'était le 50e anniversaire que j'ai fait ce petit papier, mais autrement, je me contente toujours d'un poème. C'est tout. Un poème d'un de mes camarades, Roger Joly, qui est là. J'ai regardé ce jour, le soleil s'abîmait dans l'océan profond des souvenirs perdus. Mémoire, où donc es-tu? Laisse-moi ranimer la cohorte sans nombre de mes amis tondus, frappés, décapités, pendus. Pauvre spectre hideux, avec vos grands yeux morts et votre teint terreux. Je vous dois cet égard, vous qui êtes partis en fumée si légère, qu'il ne reste de vous que le souffle du vent gémissant dans la nuit. En quel havre de paix, un Dieu sublime et doux vous a-t-il accueilli? Vous aviez trop souffert, trop subi, trop donné. Vous veniez de l'enfer. Il vous a ouvert ses bras de crucifié, vous a pris contre lui, et puis il vous a dit « Voici votre royaume, celui des suppliciés. »
Ici sont enterrés un petit communiste, comme le petit Le Malheur, entre autres. une chrétienne, comme la maman de Thérèse Boudier. Et une petite juive, comme ma sœur. Mais ce que je voudrais vous dire à tous aujourd'hui, si je suis ici, une des rares juives dans votre groupe, je vous le dois à tous et à toutes qui avaient œuvré pour la liberté, qui avaient travaillé pour que, aujourd'hui, 50 ans après, je sois là pour vous le dire. À tous, je vous embrasse du fond du cœur et je vous dis merci. Je voudrais qu'on fasse une minute pour cela.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation,
mais délivre-nous du mal.
C'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Les paroles et l'émotion de Joséphine Bénaros Gauthier au cimetière de Honnekamp, près de l'immense camp mouroir de Bergen-Belsen, permettent de poser une question abordée avec gêne par les déportés, mais plus librement par leurs enfants, l'oubli devant la gigantesque barbarie de l'Holocauste, du sacrifice des résistants et des déportés politiques. Philippe Vandel, Jean Rousseau, Joséphine Bénaros Gauthier.
Ils n'aiment pas tout le tapage qui est fait autour de ça, parce qu'il y a une chose que j'aimerais dire, c'est que en France, quand on parle de déportés, on associe, c'est pas du tout à caractère raciste que je vais dire, mais en France, quand on parle de déportés, on associe déportés et juifs. Mais les gens ont... Moi, quand j'en ai parlé autour de moi, mes amis, etc., quand je dis que mon père a été déporté, on dit « tiens, il est juif », et ils n'arrivent pas à comprendre qu'il y ait des Français qui ont été déportés.
On parle de l'Holocauste, c'est vrai, c'est affreux, simplement pour une raison de race, une raison d'ethnie, une raison de politique, ce que l'on veut. Mais il y a aussi ces hommes et ces femmes qui, dans l'Europe entière occupée, se sont engagés contre le nazisme, c'est-à-dire les résistants. Qu'est-ce que c'est que le résistant ? C'est celui qui s'est engagé contre le nazisme. Pourquoi ? Parce que le Français, par exemple, a refusé l'occupant. Ensuite, il a voulu redonner sa dignité, sa liberté au peuple français et en même temps redonner la dignité à l'homme. Or, moi j'appartiens à la résistance, je suis un ancien résistant. Eh bien, je me considère, et tous mes camarades, premièrement, nous ne sommes pas des anciens combattants parce que ce qui nous a fait rentrer dans la résistance, depuis 50 ans, nous continuons toujours le combat pour les droits de l'homme, la liberté, la démocratie. Et deuxièmement, nous avons, beaucoup d'entre nous, ceux qui ne sont pas passés par le poteau d'exécution, nous avons terminé dans les camps de concentration. Mais nous, et personnellement, je ne veux pas être traité comme une victime des camps de concentration. C'était la conséquence de mon combat.
Les résistants, on n'en parle pas beaucoup dans les médias. Quand on fait des reportages, et quand vous faites, puisque vous êtes journaliste, des reportages, vous ne voyez que la question juive. On parle très peu des résistants et des camps de résistants, mais tout de suite, dans la minute ou les deux minutes qui suivent, on parle tout de suite d'Auschwitz. Mais il n'y a pas eu qu'Auschwitz. Il y a eu Bergen-Belsen, où il y avait tout le monde. C'était le mouroir, on envoyait à Bergen-Belsen tous les gens venant des autres camps. Et ils n'étaient pas tous juifs. Donc on n'en parle pas assez, et je suis bien placée pour le savoir, parce que depuis 1946, maman a commencé les pèlerinages. En 1948, elle les a fait avec M. Raymond Dutheil. l'abbé Carlotti, monsieur de Catalogne, c'est un peu dans le désordre, mais et tout ça, tous ces gens-là étaient des résistants, des maquisards, des otages qui avaient été pris dans les villages, et eux n'étaient pas juifs. Ils avaient souffert de la même façon, ils avaient travaillé, ils avaient donné leur vie pour la liberté, pour notre liberté à nous les juifs, pour qu'en France, eh bien, on parle encore, et grâce à Dieu, aujourd'hui encore français, mais c'est à eux qu'on le doit, et je crois qu'on n'en parle pas assez. Moi, j'ai eu honte pendant des années et des années d'être juive, et si je me revendique aujourd'hui ma judaïcité, c'est grâce à eux. Ils m'ont fait comprendre que ça n'était pas une tare. Ils m'ont fait comprendre qu'être juif, c'était... On est juif, et puis oui, mais on est des hommes, et on est des êtres humains, tous, sur la terre. Et c'est eux qui me l'ont fait comprendre. Moi, je me souviens d'un premier pèlerinage que j'ai fait seul, sans maman. Et je me suis entendu dire, moi-même, mais pourquoi est-elle morte? Elle n'était même pas juive. Tout de suite, j'ai eu honte, vraiment. Et c'est là qu'on m'a dit, mais c'est pas une tare. C'est tout, c'est pas une tare, tu as tort d'avoir honte. Tu es juive et tu es juive, c'est tout, point final. On n'est pas là pour pleurer uniquement. On est là pour se souvenir et pour n'oublier jamais. Il ne faut pas oublier que ça existait. Il faut le dire, il faut le redire. Mais ce qu'il faut dire et redire aussi, c'est qu'il n'y a pas que les juifs. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de juifs, c'est vrai. Mais il n'y a pas que les juifs. Il y a eux. Si sans eux, on ne serait pas là. Hein.
Je m'appelle Sulkovic Anne et en fait si je suis venue c'est vraiment parce que c'était important, c'est quand même le 50e anniversaire, on n'a pas vécu ça nous et j'espère bien qu'on le vivra jamais. Et ce qui s'est passé là c'est que en fait c'est ça rappelle beaucoup un enterrement et ça fait mal. On m'a demandé de déposer une gerbe, je n'avais aucun lien de parenté avec quiconque ici, je n'ai jamais eu personne de déporter. Je fais partie d'une génération qui complètement est passée au travers de ça. Je suppose que mes grands-parents étaient trop vieux pour être des résistants, c'était pas possible. On est passé complètement à côté. Et moi, je me suis intéressée à cette période parce que j'aime beaucoup l'histoire et je veux comprendre, en fait. Et quand je vois qu'en ce moment, j'ai l'impression que ça va recommencer, mais peut-être pas à cette échelle-là, mais il y en a qui sont encore sans, qui peuvent encore... se poser des questions dessus en hésitant, quoi. C'est pas possible. Il faut venir voir ça, venir voir les familles, se rendre compte que ça fait... On peut pas comprendre ça à l'école ou de chez nous, c'est impossible. Moi, c'est en venant, en rencontrant les gens de l'amicale, que je me suis rendu compte de ce que c'était, en parlant avec les déportés. Et ça m'était jamais arrivé, même quand on étudiait la Seconde Guerre mondiale, c'était des mots, c'était des photos et c'était rien de plus. Ici, ce sont des gens qui l'ont vécu. Et ça, c'est vraiment... J'ai jamais vécu quelque chose de pareil. C'est incroyable. Et ils arrivent parfois même à se souvenir en riant. C'est pas possible. Ils reviennent de la mort. J'avais ressenti ça déjà quand je les avais rencontrés à une conférence. Je les ai revus. Ça m'a fait vraiment plaisir. Et c'est une ambiance qu'on retrouvera pas. Et là, ça revient. On le revoit. Et ça fait vraiment... Dans un sens, c'est réconfortant de les voir vivants, qu'ils puissent témoigner. Mais bien sûr... On les voit aussi souffrir en pensant à ceux qui sont parvenus et on peut bien sûr se demander pourquoi ceux-là ne sont parvenus.
Je peux vous demander votre âge?
Je vais avoir 19 ans dans quelques jours.
Ah bah, tu vois, et j'avais si tu es... ce âge-là quand je suis...
Oui, c'est ce que je me suis posé comme question hier, justement. C'est incroyable. Enfin, moi, je ne me vois pas aujourd'hui, par exemple...
Bon, moi, je vais t'expliquer.
Thérèse Boudier, vous aviez 19 ans à cette époque-là.
J'ai eu 18 ans là-bas, j'ai eu 19 ans en rentrant.
Mais tu vois, le propre de l'homme, c'est de rire. Et si on s'était effondré devant nos bourreaux, ils auraient été trop contents. On n'en pouvait plus, mais de temps en temps, on se payait une petite boum, à l'époque, ça ne s'appelait pas comme ça. On chantait un peu les chansons de chez nous. Regarde, à Belzen, on est venu, tu sais, c'était le camp de la mort. Hein. Donc on est arrivé le dimanche. Le mercredi, les SS nous ont fait porter des paquets à la gare, parce qu'il y avait de l'eau tellement qu'on avait soif. Et sais-tu ce qu'on a fait? Il n'y avait pas d'eau, il y avait 10 litres d'eau qui ont été répandus entre 400-500 bonnes femmes. Eh bien, en rentrant, nous les Françaises, on s'est mis 5 par 5 et on a chanté. Catherine était bonne chrétienne à Bourguignon, fut son parrain une bretonne, sa marraine. Et rappelle-toi que depuis le dimanche, on avait un demi-litre de soupe et on n'avait pas à boire. Et le mercredi, on se tenait droite, celles qui pouvaient marcher, on n'avait pas emmené celles qui ne pouvaient pas marcher. On n'était plus rien. Puis tu vois ce camp qui veut dire nulle part, et ça ressemble bien à la vie qu'on avait. On était nulle part. Mais pleure pas.
J'espère qu'on va à Bergen maintenant.
Oui, et bien alors, je vous remercie, excusez-moi d'avoir... Mais cette petite, il faut lui aider, il faut lui aider à comprendre que la vie, c'est... C'est quelque chose de tellement extraordinaire que même quand on ne peut plus vivre, on vit quand même encore. Hein.
Le premier voyage qu'on a fait en Mengam, on ne pouvait pas s'empêcher que de pleurer. Après, les autres pèlerinages qu'on a fait, on évoque nos camarades, mais c'est déjà plus pareil. Et puis alors, au fur et à mesure des années, on a vu des jeunes Allemands venir nous accompagner. Et on a des Allemands, j'ai des Allemands de Salgitter, qui sont venus, on a été chez eux, on a été bien reçus chez eux. Ils sont venus passer une semaine à Salin, chez nous. C'est déjà plus la même ambiance. Je sais pas comment dire.
Alors, est-ce qu'on oublie? Est-ce qu'on oublie? Est-ce qu'on pardonne?
On ne peut pas oublier. Pardonner, oui, mais aux jeunes générations.
Bien sûr.
Parce que les Allemands de notre âge, ma foi, c'est difficile de leur pardonner. Moi, j'ai une de mes tantes qui est morte au commando de Neubrandenbourg uniquement pour avoir eu des aviateurs américains chez elle. Elle était célibataire. Bon, c'est mes parents qui ravitaillaient tout le coin. Bon, tout ça. Mais ça fait mal au ventre. Ça fait mal au ventre quand même de retourner en Allemagne. Je ne dis pas que la terre allemande soit maudite. C'est une terre européenne maintenant. Et puis, moi je me dis, si on ne pardonnait pas, à quoi ça servirait d'avoir été en camp de concentration, dans le fond.
Hein? Je ne pense pas qu'on pleurait. Mais j'ai plus de larmes, moi. Oui, j'ai le cœur serré, mais j'ai plus de larmes. Quand on est arrivé ici, ça faisait déjà 15 mois qu'on y était. Donc petit à petit, je veux dire, on ne s'y fait jamais. Mais tout de même, parce qu'on est venu à pied, vous savez, puis on a entendu les coups de revolver qui abattaient les hommes qui restaient derrière. Je me souviens d'un petit jeune qui était beau. Il était sur, je pense, son père. Eh ben, ils ne l'ont pas laissé. Hein. Ils auraient pu... tuer le père, achever le père et puis emmener le gamin nous rejoindre. Et ben, ils ont donné deux coups de revolver, quoi. Hein? Et il avait des beaux yeux, il nous regardait comme si on avait pu lui redonner la vie. Hein? Oui, alors on a été à Ravensbrück où nous avons été immatriculés. Je suis tombée très malade parce que, puis presque toutes les jeunes femmes, il devait y avoir quelque chose dans la soupe pour ne pas qu'on ait nos règles. Et ça nous donnait du pus. Alors moi, ça sortait par l'oreille. Geneviève de Gaulle, ça sortait par les yeux. C'est du pus comme quand on mouche épais. Et alors donc, on s'est trouvé à être séparés de nos camarades. On est donc venu à Wattenstedt, qui était un ramassis, appelons les choses par leur nom. On nous a pris à la soupe, n'importe qui, n'importe quoi, n'importe qu'est-ce. Et puis, bon, bah donc je suis retombée malade, c'est normal, hein, parce que je n'étais pas bien guérie. Et alors après, je suis venue à Hanovre. À Hanovre, on a été 4 mois, et c'est de Hanovre À Belzène, qu'on est venu à pied, on a eu une évacuation de 3 jours, ce qui n'est pas très extraordinaire, hein, vu le temps. Mais alors, quand on est arrivé à l'entrée du camp et qu'on a vu typhus, une tête de mort et 2 tibias, vous savez, ça fait un drôle d'effet quand vous entendez les canons de la libération et que vous vous dites on entre dans la mort. Hein.
Et 5 mai 1995, cérémonie officielle sur la place d'appel du camp de Neuengam au mémorial de Bergen-Belsen et au commando de travail, aujourd'hui musée, de Druth. Jean Rousseau, Simon Vandel, André Berniaud et Eva Maria Freudenstein du groupe de travail de Salzgitter sur la déportation.
Pour moi, c'est la première fois et j'ai l'impression. Là, on frôle l'inimaginable de voir tous ces charniers où 2000, 5000, 10 000 cadavres. Je suis ailleurs.
Un jeune cigane, on l'a fait jouer du violon, et devant tout le monde, devant tout le camp réuni, là, sur la place d'appel. Et à un certain moment, quand il a fini son morceau, les Allemands, les SS l'ont pris, on l'a pendu. Pour quelle raison, on ne sait pas. Certainement parce qu'il était cigane.
Vous pouvez nous décrire ce que vous voyez ?
Bah,
tout d'abord, c'est toujours le caractère grandiose des paysages. Là, on est entouré d'une magnifique forêt qu'on vient de traverser et qui est la vie même. Et quand on rentre sur cet espace, sur le camp, on voit d'abord un monument qui indique Bergen-Belsen 1940-1945. Et on se rend compte, quand on regarde à droite ou à gauche, des charniers qui sont là. Et c'est par centaines de milliers de morts qu'il y a en cinq années. Sûr que les cyprès qui sont là rappellent le cimetière, définitivement, mais je crois que c'est plus qu'un cimetière. Quand on voit là-bas, au loin, des plaques qui sont posées, qui rappellent que là, des êtres humains sont enterrés parce que leur seul crime, c'était d'être des hommes de bonne volonté qui défendaient les droits de l'homme contre l'oppression et la barbarie. Lorsque l'on voit ici devant ce mémorial magnifique où se trouvent mélangés français, polonais, belges, on se dit que peut-être cette parole dont nous parlions tout à l'heure et qui est le complément de la devise de Neuengamme, n'oublions jamais, de Dietrich Bonhoeffer avant d'être pendu, ce pasteur allemand résistant au nazisme avant d'être pendu au crochet de boucherie à Berlin, avait écrit sur un papier « Lorsque on est venu arrêter les communistes, je n'ai rien dit parce que je n'étais pas communiste. » Lorsqu'on est venu arrêter les Juifs, je n'ai rien dit parce que je n'étais pas juif. Lorsqu'on est venu arrêter les sociaux-démocrates, je n'ai rien dit parce que je n'étais pas sociaux-démocrate. Et lorsqu'on est venu m'arrêter, il n'y avait plus personne pour me défendre. Je pense qu'avec n'oublions jamais de Neuengamme, Bergen-Belsen et l'image exact de ce que l'avenir que nous avons à construire et que la jeunesse a à construire, eh bien, c'est l'image exacte du devoir qu'ils ont maintenant de défendre la liberté et les droits de l'homme en Europe d'abord et s'ils le peuvent dans le monde ensuite.
J'avais les pieds tout brûlés, les mains toutes pourries, j'avais des doigts comme ça pour vous dire que c'était pénible. Et j'étais obligé de travailler quand même parce que dans cette équipe de presse, c'était c'était que des Allemands, des anciens assassins ou des machins, droit commun, excusez-moi, je suis pas un peu ému, et ils nous en voulaient, parce qu'on était résistants, on était français, on n'était pas de leur de grade, etc. Ils avaient tout pour nous rejeter. C'est... Et alors je voulais vous dire une chose aussi, que lorsque j'étais opéré là, on m'a coupé les doigts, le poignet et l'avant-bras sans être endormi dans cette revire. Un Français d'ailleurs, qui a été condamné après son retour, se faisait poser pour infirmier.
Cette année, il y a beaucoup de réunions qui commémorent les événements avant 50 ans. Elles ne seront vraisemblables que dans la mesure que les responsables n'essayent pas de terminer définitivement ni l'histoire d'après-guerre et la confrontation avec le national-socialisme, ni le problème de la culpabilité et de la responsabilité. Des discours commémoratifs prononcés par des hommes politiques restent vides et pathétiques s'ils ne sont pas entourés d'une politique qui ne nie pas le passé.
Entre le 5 et le 7 avril 1945, il est évident, on n'avait ni montre ni calendrier, mais enfin approximativement, le camp de Wattenscheid a été évacué. On est monté dans des wagons à minerais, c'est-à-dire à ciel ouvert, des tombereaux. On a pris dans le train en gare de Wattenscheid, on est passé à Magdebourg. On s'est arrêté à proximité du camp de Magdebourg. Le crématoire a fumé beaucoup, on a attendu peut-être une heure, deux heures, trois heures. Nous ne sommes pas descendus, on suppose que c'était complet. Nous avons continué ensuite sur Oranienburg-Sachsenhausen. Et là, nous devions passer au crématoire. Je l'ai su par la suite par un camarade, le préfet de Mange, qui est mort depuis. C'était complet. Et on n'est pas descendu de wagon, mais on a été mitraillé quand même par des avions alliés, parce que monté sur la voie parallèle à la nôtre, monté en même temps que nous, un train de blindés de DCA, la FLAC, des SS, qui ont riposté. Et nous avons eu des camarades tués par des balles tirées des avions. Et nous sommes descendus à Ravensbrück. À Ravensbrück, dans le wagon, il y a eu des morts par le bombardement et aussi des morts de typhus et de soif, etc., de misère. Et on a enterré les morts. On en a débarqué pas mal et nous n'étions pas en bon état. Nous avons traversé et le camp des femmes de Ravensbrück, nous l'avons su plus tard, avait été évacué entièrement. Et en longeant le mur des femmes avec mon pauvre frère qui était avec moi, et d'autres camarades, on a vu un tas d'ossements, des ossements blanchis, pensions-nous, par les intempéries, la neige, le froid, le soleil, etc. On pensait que c'était des restes d'animaux d'un abattoir. Et moi, j'ai pris 4 vertèbres que j'ai cassées, et il y avait la moelle épinière qui était grosse à peu près comme le petit doigt. C'était gras, gluant, puant aussi, mais on a dit au fond, ce sont des vitamines, on va prendre des vitamines. Et on a mangé, on a mâché, disons, le reste de l'ossement. Et pour nous, on disait, tiens, c'est du calcium, on va fortifier le squelette. Et nous avons su plus tard qu'on avait mangé des ossements de femmes. Et de là, à Ravensbrück, on est resté environ une huitaine de jours. Et fin avril, il y a eu une sélection. Pour ma part et mon pauvre frère, d'autres camarades, on était sélectionnés pour partir en colonne. Et le SS de la colonne, on est parti en direction de la Baltique, vers plein nord, de Ravensbrück vers le nord. Et environ 50 ou 60 km, peut-être, nous sommes arrivés à Malkov. Mais avant d'y arriver, les derniers de la colonne étaient descendus par le SS. Et moi-même et mon frère, on a failli être tués aussi, parce que des camarades qui étaient derrière disaient, Roland, André, viens me soutenir, je ne peux plus. Notamment un camarade qui avait perdu son frère et son cousin. On a dit, celui-là, il faut essayer de le ramener si on peut. Et le 2 mai au matin, des Mongols sont arrivés. C'était des partisans russes, à cheval, en civil, avec le brassard rouge, avec la faucille et le marteau. Ils venaient en franc-tireur. Et ils nous
ont de l'armée russe.
Franc-tireur dans l'armée russe. Et ils nous ont fait comprendre qu'ils ne pouvaient pas s'occuper de nous car ils n'avaient rien avec leurs chevaux et leurs Kalachnikov. Et ils ont dit, les camarades, l'armée va arriver 48 heures, 24, 48 heures après. En effet, l'armée russe régulière est arrivée à ce moment-là. Et ils ont dit, on ne peut rien faire pour vous, mais si on vous fait du mal, venez nous chercher. Il y a des camarades qui ont été mal reçus par des fermiers chez qui ils allaient manger un petit bout de pain ou une pomme de terre. Ils sont allés voir les Popov, les Mongols. Oui. Toute la famille a été ratissée. Et après, ça a mis de l'ordre dans la population vis-à-vis de nous, n'est-ce pas, pour essayer de nous sauver par...
De vous aider.
Nous aider par un petit bout de pain et autres.
Raymond a été assassiné le 22 janvier 1945 par le SS Winkler qu'on appelait Fernandel. Au cours du travail, il était chargé de piocher. Il piochait dans un fossé qui était plein d'eau. Il avait de l'eau à mi-jambe. Et puis, à un moment donné, il s'est assis, au moment où Fernandel arrivait. Fernandel l'a vu assis sur le bord de fossé. Il l'a roué de coups, mais alors roué de coups. Et quand on est remonté du travail, Raymond était dans une colonne avant nous, si tu te souviens. Et Raymond ne pouvait plus marcher tellement il avait été roué de coups. Et à un moment donné, il se retourne. Les deux colonnes étaient séparées peut-être d'une dizaine de mètres. Il se retourne vers nous, et puis il y avait Carlotti. Et lui dit, monsieur l'abbé, sauvez-moi, je ne peux plus avancer. Et puis, l'abbé s'est précipité. Ils ont pris Raymond avec eux, un autre camarade qui est mort à Armainbruck. Et ils l'ont soulagé comme ça. Mais malheureusement, le chourme qui était à côté de nous ne disait rien. Mais malheureusement, il y a... Mon Fernandel qui remontait toute la colonne, quand il aperçut Raymond, il l'a reconnu. Alors il a donné 2-3 coups de crosse à Carlotti, puis Raymond est retombé. Puis je me souviens, il a crié « Monsieur Abbé !»
Au retour de la captivité, j'étais
il avait 25 ans quand il
l'a. J'étais voir son père. Son père était inspecteur principal au RG, renseignement généraux à Agen. Et lui-même était jeune inspecteur de police à Agen, et moi j'étais inspecteur de police judiciaire aussi à Arcachon. Et je leur ai annoncé la nouvelle, et plus tard, ils sont venus, comment dirais-je, en pèlerinage. Et ce que tu dis concernant le pèlerinage de Madame Koskula, qui s'était couchée sur la tombe.
Mais il ne pouvait plus sortir. Il avait son frère Gilbert également. Gilbert j'ai écrit, mais on ne peut pas entretenir une longue correspondance avec tous les camarades, tous les parents des...
Le père et la mère sont morts, et Gilbert le survivant est vivant maintenant. C'est le seul de la famille, il n'y a plus personne.
Pour vous dire comme c'est atroce pour les familles, à Conliège, dans le Jura, on a Madame Sainte-Barbe qui est morte depuis. Madame Sainte-Barbe avait ses 3 garçons, 25 ans, 22 ans et 20 ans, déportés à Nuenham. L'aîné est mort, je ne me souviens plus de la date. Le deuxième est disparu. Le troisième est mort dans notre convoi qui a évacué Wattestedt à Ravensbrück du 7 au 14 avril. Nous étions 1300 dans notre train au départ. Nous sommes arrivés 300 survivants à peu près. Et on a 1000 morts ont jalonné tout notre calvaire. Et ce fils Sainte-Barbe est mort dans ce convoi. Pendant très longtemps, jour après jour, Madame Sainte-Barbe continuait de mettre le couvert de ses 3 garçons à la table familiale. Pendant très, très, très longtemps. Eh bien, vous savez, quand on parle de nos souffrances, nous... Les souffrances des familles, c'est tout autre chose, et puis encore, et ça dure toujours encore.
Après les terribles témoignages d'Abel Bougenière et Jacques Saillard, retour au camp même de Neuengamme et au très sinistre atelier des tresses. Robert Joly en pleine explication, puis Jean Langlais, Philippe et Jean Rousseau.
Et le SS faisait son tri. Alors, ça n'était pas ici comme dans l'Est où c'était un tri pour être gazé. Mais ceux qui mettaient d'un côté, c'était ceux qui allaient mourir de toute manière, qu'ils jugeaient absolument inutilisables. Et ceux qui mettaient à droite, c'était pour les envoyer aux tresses. Alors les tresses, c'est dans ce bâtiment. Il faut voir, il faut aller voir ici les caves qui se situent sous ce bâtiment. Elles sont d'époque et je vous garantis qu'il y a un climat qui s'en dégage. Hein. Alors tous les malheureux qui étaient des gens qui avaient très peu de jours à vivre étaient envoyés dans les tresses pour y fabriquer des cordes. On leur donnait des bouts de ficelle, des bouts de chiffon. Et pendant 12 heures d'affilée, ils étaient donc dans cette cave où il n'y avait pas d'air et ils fabriquaient des cordages.
Les pieds dans l'eau.
Les pieds dans l'eau, parce que si vous descendez, vous descendez là-dedans, c'est tout à fait noir. Et alors, il faut que vous regardiez, il y a des flaques, des accumulations d'eau. Passez pas là-dedans, parce que quelquefois, c'est profond. Hein.
Et c'est le seul truc qui n'est pas changé.
Ça n'a pas changé.
Sauf qu'ils ont mis des tuyaux depuis. Mais à part ça, c'est exactement comme c'était à l'époque. Alors là, quand on va là-dedans, hein, moi j'y ai travaillé 2 mois aux tresses, donc je restais plus de 8 jours, contrairement à ce que tu dis, mais enfin,
c'est
un coup de
chance. Non, c'est vrai, non, mais c'est vrai.
Mais enfin, en principe, c'est ceux qui sortaient de l'infirmerie qui étaient incapables de faire les gros boulots qu'on faisait dans le camp, aux tresses. Et ben, les tresses, c'était pas rigolo parce que vous étiez dans une humidité permanente, puis il fallait faire vos 25 mètres par jour. Sinon, vous avez droit à des grands coups de schlag. Alors le capot, il passait, il comptait pas toujours les 25 mètres de tous parce que c'était pas possible. Mais alors ceux qui, vraiment, manifestement, n'en avaient fait que très peu, ils avaient droit à une bonne dérouillée.
Quand vous vous trouvez là-dedans, où là, on entassait des centaines de détenus. Mais moi, vous savez, c'est dur de parler. Moi, je suis en admiration devant ces gens. Comme tout à chacun, nous avons nos zones de peine. Et eux, et c'est extraordinaire, ils arrivent à témoigner de choses... Je suis émerveillé. Ça fait 2 jours que je suis là vraiment, parce qu'autrement, c'était lors de congrès qu'on se voyait. Mais là, on est au cœur de l'immonde et ils arrivent à parler calmement. On en apprend tous les jours. Tous les jours, sur la nature humaine. J'ai toujours entendu que ce soit mon père ou d'autres personnes dire le ventre est encore fécond, d'où est née la bête immonde. Et c'est, pour moi, j'ai entendu, je sais pas, peut-être 4 ans, 5 ans, 6 ans. Et je croyais que la génération de mes parents avait fait un tel boulot que je me disais, mais c'est bien parce que en fait il témoigne. Oh, attention, il y a de l'eau, vous voyez, oui. Comme quoi on se retrouve, comme il y a, attention à votre tête, comme il y a 50 ans on pensait que ils avaient fait un tel boulot qu'on ne se poserait même pas la question de la mémoire collective, de savoir si nous on serait capable. Et si nous, notre rôle était indispensable à transmettre.
Moi, j'ai travaillé, comme tu disais, oui, en sortant du revir. Ben oui. En sortant du revir, c'était affreux comme choix, parce que on était tous déjà en état de faiblesse, et oui. C'était la pourriture, les tresses. C'est-à-dire, c'était des bouts de caoutchouc avec des bouts de tissu, c'est-à-dire tout ce qui était contaminé, pollué au possible, et c'était ceux qui sortaient du revir qu'on envoyait là, et puis, bien sûr, les handicapés physiques. Car il faut avoir vu ça. Il faut avoir ça dans le fond de... Moi, tu vois, la mémoire, eh bien, je disais à une famille que c'était pas là les tresses, que c'était de l'autre côté. Alors, bon, tu le dis, ça doit être vrai, mais c'est là. Bah, tu vois, la mémoire, hein, la mémoire fait défaut.
Là-bas, mon petit Jean, quand tu es arrivé de France,
oui.
nous sommes... Là, je crois qu'il faut vous dire une chose. On est arrivé, enfin, je vous parle de ce que j'ai vécu, là, le premier convoi. Le premier, en mai, le 21 mai. Premier convoi de France, nous sommes à...
44.
Oui, 44, oui, bien sûr.
Avec les 30 000, là.
C'est ça, 30 ouais. Et 31 000. Alors, on est arrivé ici après 4 jours de voyage et 3 nuits, passés debout sur nos jambes. Quand on est arrivé ici, c'était pas comme maintenant, c'était bétonné, ça, cette place d'appel.
Oui, oui, oui.
Alors, on a eu qu'une pensée, c'est de nous allonger par terre. Parce qu'on était complètement dans un état second. C'est allongé. Naturellement, on a été vite remis sur nos pieds. Et puis, un SS est arrivé et c'était Touman. Oui. À la tête de quelques acolytes. Mmh. Il est monté sur une table pour dominer tout ça. Mmh. On était 1986 au départ de Compiègne. Ici, combien on était, je ne sais pas. Peut-être 1600, parce qu'il y a eu du déchet en cours de route. Et alors, il dit, il nous a tenu ce langage. « Hier, das ist, es gibt kein Sanatorium. » Ici, ça n'est pas un sanatorium. Oui. Votre espérance de vie normale, si l'on n'est pas aidé, j'ai bien aimé le « si l'on n'est pas aidé », c'est 2-3 mois. Et après, nous dit-il, vous partez par là. Alors, en désignant ça, c'était la cheminée du crématoire, car le crématoire est derrière les arbres, là. Alors, le crématoire fumait en permanence, et on a compris que ben, ça, c'était vraiment un crématoire. Et avec le vent de la mer du Nord qui se répandait.
Je peux te poser une question. Est-ce que tu as cru, quand tu as entendu ça, tu l'as cru, ça?
Non, j'ai dit propagande.
Moi non plus.
Propagande. Mais mon petit père, écoute, 3 quarts d'heure après ça, après ce discours, on était toujours empaqués ici, arrive par cette porte, c'était la fin de la journée de travail, tout à fait en fin d'après-midi, et sont rentrées des colonnes de déportés, enfin qui de détenus, commandos, oui. qui venaient des commandos de par là, de tout autour du camp, et qui rentraient. Et à ce moment-là, nous avons vu pour la première fois des spectres enrayés, qui étaient dans un état alors épouvantable, et qui marchaient en cadence, parce que là, à l'endroit où se trouvent ces gens-là, c'est-à-dire tout de suite à gauche, là où ce petit bâtiment, il y avait un orchestre qui, le matin et le soir, jouait. Et jouait toujours le même air. Et ce même air-là, je ne vais pas vous le fredonner parce que... Le vieux camarade. Bon, et alors on a vu en cadence, parce que c'était un hymne nazi, on a vu des colonnes avancer et marcher comme ça, d'un pas mécanique, arriver, se former et s'aligner sur cette place d'appel, sur cette immense place d'appel. Et là, le fait de voir ces spectres marcher en cadence, ça nous a foutu un sacré coup. Et on s'est dit, nom d'un chien...
Et là, j'ai commencé à y croire.
Ah oui. Alors, une pensée nous a tous envahis. Depuis combien de temps sont-ils là? Alors, on a demandé, une colonne est passée près de nous. On a dit, est-ce qu'il y a des Français parmi vous? Personne n'a répondu. On a redemandé, est-ce qu'il y a des Français parmi vous? Alors, à ce moment-là, une voix ou deux ont dit, oui, on est Belges. Bon, alors, question, depuis combien de temps êtes-vous là? Et ils nous ont répondu, 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines. Alors, c'est là où on a eu une prise de conscience en se disant, eh ben, si dans 6 semaines, on est dans l'état où ils sont, Touman, on ne savait pas que ça s'appelait Touman, n'a pas menti. Et Touman n'a pas menti, en fait.
Moi, j'ai compris tout de suite, parce que le deuxième jour de l'arrivée au camp, on les avait foutus dans des blocs, d'ailleurs, où les lits se sont écroulés, les paillasses sont écroulés, parce que c'était tellement surchargé qu'en pleine nuit, tout s'est écroulé, sauf le mien, heureusement. Alors, ça a été un concert de hurlements. 2 jours après, je me promène. On n'était pas encore affecté à un boulot. Finalement, le troisième jour, on a été envoyé à Wattenstedt. Et alors, j'étais dans le camp, et je me rappelle plus où c'était. Je vois passer un type que j'avais connu, un colonel de l'armée française qui avait été arrêté à Lyon, qui s'était trouvé à Montluc avec moi dans la même cellule, qui était marié, qui était relativement âgé et qui avait des enfants tout jeunes, une femme toute jeune. Et ce type-là, il a passé devant moi, complètement hagard, marchant comme ça. Il était parti 2 mois avant de Montluc. Et ben, je me suis dit, en 2 mois, ce type-là, il est foutu. Il a dû mourir le lendemain ou le surlendemain. Ben, je me suis dit, si je vis comme ça dans 2 mois, ça va être gay. Finalement, on est parti à Wattenstedt, où on s'est retrouvés.
Je vous jure, j'ai pas connu le nom Neuengamme, et j'ai pas connu le mot Auschwitz ou une autre chose. C'est après la guerre, on a vu les films par les militaires français et américains, mais j'ai pas, je vous jure, je dois dire ça encore, je vous jure, je sais pas.
Mais vous savez que pour un déporté français ou pour un fils de déporté, c'est très difficile de vous croire quand vous dites ça.
Exact. Ça, c'est exact. Vous savez, il y a le petit village ici, pourquoi on connaît pas?
Alors, vous pensez que les gens du village, eux, connaissaient?
Vous croyez? Je crois pas.
C'est pas possible. Une fumée de four crématoire, oui. Des déportés qui arrivent par milliers, ils n'ont pas vu? comment ça?
Alors j'ai parlé avec quelqu'un.
Et alors?
On a dit non. Et on a vu les trains avec les gens. Mais on a cru que ça c'est une compte pour travailler. Mm-hmm. Mais pas pour mourir.
Je suis sans doute un des rares survivants qui peut témoigner de la fin du camp de Neuengamme. Et je crois que cette fin de Neuengamme ne donne aucune excuse au régime nazi. Donc toute l'histoire est justifiée, elle est logique, elle est là, et c'est pourquoi il faut la dire, car dans 50 ans, on ne sera plus là pour le dire. Et lorsque l'on voit dans nos pays actuellement encore admettre que des mouvements puissent nier cette existence, voire au contraire, à travers des crimes commis pour nous Français dans notre propre pays, et je le dis dans ce camp, tant que nous n'aurons pas assumé, nous Français, notre histoire, comme les Allemands sont en train de le faire, alors oui, on pourra tout le temps dire que les camps de concentration existeront dans le monde.
La première génération après la déportation n'a pas bien connu le problème parce que, enfin ça, c'est pas la peine que j'en parle, Elie Wiesel en a parlé avec Gerd Sambrun, c'est pas la peine que je reprenne leurs paroles, elles sont bien connues. Mais après la sortie du film Holocauste, en particulier en Allemagne, il y a eu des interrogations qui se sont soulevées et toutes ces jeunes générations ont voulu savoir ce qui s'était passé. Et maintenant, les dirigeants allemands sont de plus en plus fermes vis-à-vis du passé de l'Allemagne nazie. Et on en est actuellement, on a les premiers mouvements de mise en cause de la Wehrmacht. Alors maintenant, on met en cause la Wehrmacht elle-même. C'est très clair, l'Allemagne fait face à son passé de plus en plus fermement.
Robert Pinson, secrétaire général de l'Amicale de Neuengamme, se donne encore quelques années, ainsi qu'à ceux qui sont revenus, pour témoigner et passer la mémoire. Son président, Jean Lebris, est venu, lui, au cinquantenaire, accompagné de 25 membres de sa famille. On écoute Jean, Yves, Nicolas et Alexandre sur le quai de la gare de Hambourg, le jour du retour en France.
Je pense que le président n'a rien à voir avec la réunion de la famille Lebris à ce pèlerinage. C'est pas parce que je suis président de l'Amicale et ils sont pas venus sur injonction, ils ont choisi de venir, alors c'est tout simple. Puis aussi, on est plus qu'une famille, on est une smala, une, je sais pas, un groupe un peu particulier peut-être.
Oui.
Des liens familiaux extrêmement, extrêmement étroits.
C'est pas tout à fait la première fois qu'on vient, non. C'est la troisième. Depuis la première année en 1963, 72 et puis maintenant. Donc après une interruption assez importante.
La première année, vous aviez quel âge ?
J'avais 18 ans.
Et
l'occasion du 50e anniversaire a fait que toute la famille, qui avait des occupations un petit peu différentes entre les autres années, a fait un effort particulier pour être réunie.
On est venu déjà pour savoir un peu ce que notre grand-père avait vécu. Et puis, parce qu'il n'en parlait pas beaucoup, alors on comprenait pourquoi, maintenant on l'a bien compris. Et donc ça nous a permis de voir ça d'un côté, et ça nous a permis aussi de nous forger plus de convictions, de nous renforcer dans ce qu'on pensait, dans le fait qu'il ne faut plus que ça arrive.
On n'avait jamais fait de synthèse complète sur le problème, et là, cette année, on a pu le faire, puisque... On a vu pratiquement tout et tous ensemble. Ça favorise un petit peu l'échange entre nous, entre les trois générations. On n'a pas les mêmes préoccupations quand on est ensemble dans d'autres occasions. Donc là, on a parlé un peu plus de ça. On a posé un peu plus de questions, avec des fois certaines injonctions, parce qu'on avait envie de savoir des choses qu'on ne nous avait pas encore tout à fait dites.
Par exemple
sur le parcours, je me souviens que ce matin, j'ai posé carrément la question à papa. La chronologie de tout ce qui s'était passé depuis son arrestation jusqu'à la libération. Alors bon, oui. On connaissait beaucoup de choses, mais la chronologie exacte, on ne la connaissait pas. Quel commando, telle date, etc. etc.
C'est pas facile de raconter la déportation ou d'en discuter avec une ou deux personnes. L'histoire de la déportation, pour nous en communication, c'est pas quelque chose d'intime et que l'on réserve à peut-être des gens qu'on aime beaucoup. C'est difficile. C'est plus facile de parler à un groupe que de parler à une personne. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on m'a posé des questions, toute la famille réunie, quand on traversait l'embouchure de l'Elbe. Et je me suis aperçu, mais j'étais aussi un peu étonné, qu'ils connaissaient pas mal de choses de cette période, mais que je leur en avais pas parlé de manière telle que la chronologie soit établie. Et les mots sont pas faits pour... les mots d'une langue, le vocabulaire, il est fait pour exprimer des choses courantes. On invente des mots pour les choses qu'il y a à expliquer. La déportation, c'est quelque chose d'abominable, et il y a pas de mots qui puissent comme ça s'enrouler les uns au bout des autres pour faire des phrases et pour expliquer la déportation. Oui. Et puis, si vous voulez, moi j'ai des camarades qui en ont parlé à leurs enfants. Mais alors ils s'y sont mis de telle manière, j'en connais qu'on détruit la cellule familiale. Parce que rien ne passait plus sans la déportation. Tout passait au travers. Et ça fait des familles qui en ont ras-le-bol d'entendre parler toujours des mêmes choses.
Moi, à une certaine époque, entre 15 et 20 ans, j'ai beaucoup lu sur ce problème. Et j'ai lu des choses dont je n'avais pas envie qu'on me parle à ce niveau-là. Sur un plan beaucoup plus général, oui. Motivation, savoir ce qui s'était passé par la suite, des problèmes de...
Vous voulez dire de
réconciliation, mais sur les fêtes même passées au camp, j'estime que ce que j'ai lu me suffit amplement. Et j'ai pas envie que mon père me les raconte.
On avait un noyau familial qui, peut-être, a transmis ce qu'on avait reçu de nos parents, parce qu'on s'engageait pas dans la résistance sans raison. Il fallait quand même un certain... Sans doute, avoir... été élevé d'une certaine manière et avoir un certain civisme pour défendre les valeurs de la société. Et je pense que ça, dans une famille, c'est quelque chose qui compte. Alors si c'est pas en parlant de la déportation, c'est peut-être autrement, mais un noyau familial, ça ses racines là-dedans aussi.
C'est ton grand-père, Jean Lebris.
J'ai pas compris pourquoi tout ce monde dans un même camp, dans une même baraque, dans le même wagon. J'ai pas compris. J'aimerais bien que ça recommence pas.
Oui.
Et puis je vais poser des questions pour comprendre.
Retour à Neuengamme, le passage de mémoire, une émission de François-René Christiani réalisée par Jacques Taroni.
Ils sont jamais sortis des camps. Et je crois que plus ils vieillissent, plus ils sont là-bas. Alors, ils sont plus faciles à vivre maintenant parce qu'ils ont pu parler. On les a pas psychanalysés. C'est eux-mêmes qui se sont psychanalysés en parlant à une génération qui n'était pas tout à fait proche de la leur. Et c'est comme ça qu'ils sont devenus plus vivables. Mais ils seront jamais comme tout le monde. Ils ne peuvent pas être comme tout le monde, car ils viennent d'un autre monde.
Situé à 25 km au sud-est de Hambourg, le camp de concentration de Neuengamme, 1938-1945, a compté jusqu'à 106 000 détenus de 28 nationalités différentes, dont 55 000 sont morts ou disparus. Les Françaises et Français étaient environ 10 000, 3 263 sont rentrés.
Et puis, c'est difficile. Il y a nous-mêmes qui pouvons nous replonger dans l'ambiance, quoi. Parce qu'à travers les bouquins, tout ça, c'est très difficile. Et nous, on peut raconter uniquement ce qu'on a vu dans un rayon de 5 mètres autour de nous.
Ah oui.
Moi, j'ai toujours dit aux camarades, mais n'en parle pas, tu n'y étais pas. Hein, on ne peut pas juger, par exemple, ce qui s'est passé à Buchenwald, tout s'ensuit. Nous, des fois, ça nous dépasse de savoir qu'il y a des déportés qui ont pu s'armer, qui, soi-disant, sont libérés eux-mêmes, parce que nous... Et puis, dans le camp, à Vatachel, où était ton père, il n'y avait rien, rien, rien à partager. Hein. Le partage de la soupe, ça, c'était inconnu. La solidarité pouvait se traduire juste par la main posée sur l'épaule d'un copain qui était en train de faiblir, et puis lui dire, écoute, tiens le coup.
Cette émission est dédiée à tous les déportés. Elle veut aussi honorer la mémoire de Raymond Fassin, alias Charles Dacier, alias Sif, mort au commando au camp satellite de Wattenstedt le 12 février 1945. Remerciements à l'amicale de Neuengam, chorale de l'atelier musical des lycées de Neustadt-Lübeck.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 30 septembre 1995.